Est-ce que ça marche? Ça, oui, j'ai un principe. De Gethsémani à Golgotha. Il s'agit d'un jour particulier, donc un message particulier. Nous sommes au week-end pascal. Est-ce que vous avez dit à des gens hier ou vendredi, bon week-end pascal? Même si les gens ne s'appellent pas pascal. C'est toujours une occasion de dire un petit mot. Comme quoi Jésus est la raison de la saison. Le week-end pascal existe grâce à Jésus, on peut dire. Sa mort, sa résurrection sont des faits historiques, même si des millions de nos contemporains ne veulent rien savoir. Ce que j'aimerais faire ce matin, dans ce message, c'est de, voilà, mes 7 points. Filmographie. Numéro 1, numéro 2, vocabulaire, numéro 3, chronologie ou déroulement. Qu'est-ce qui s'est passé entre Gethsémani et Golgotha? Numéro 4, parole. Numéro 5, élément surnaturel. Numéro 6, pourquoi tout ça? Et numéro 7, et moi, en 2018. Filmographie. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vu des films sur la vie de Jésus? Est-ce que vous en avez vu? Le dernier film en date remonte à l'an 2016, La résurrection du Christ, qui a été boudé par des centaines de salles de cinéma en France. Mais quelques salles ont osé projeter ce film pendant une semaine. La résurrection du Christ, 2016. Avant cela, bien sûr, le grand film sur la vie du Christ, c'est en 2004. La passion du Christ. Mel Gibson, qui a été fortement critiqué parce qu'il a osé faire un film sur Jésus. Avant cela, en 1977, Jésus de Nazareth, le film de Zeffirelli, qui durait, je crois, 3 heures ou 4 heures à l'époque. Avant ça, dans les années 60, 1965, la plus belle histoire jamais contée. Ça vous dit quelque chose à vous qui sont un peu plus âgés? Dans ce film, il y a John Wayne, centenier. Il y avait Telly Savalas. Ça vous dit quelque chose, l'acteur américain, un chauve? Non, Kojak? Non. Oui, Kojak. Bon, voilà. Il était Ponce Pilate. Et dans le rôle de Jean-Baptiste, c'était Charlton Heston. Il en a fait des films bibliques, cet homme-là. On pourrait évoquer Ben-Hur, version 1959, version 2016. Un film qui parle de Jésus. On pourrait parler de Barabbas. Vous avez vu Barabbas? 1961 avec Anthony Quinn, qui parle de Barabbas. Ce n'est pas un film biblique, mais c'est quand même un film qui parle de Jésus. La tunique, 1953. Covadis, 1951. Et un film franco-français, Golgotha, 1935. Et dans ce film, c'est l'un des premiers films dans lequel un certain Jean Gabin a joué. Il avait le rôle de Ponce Pilate. C'était un de ses tout premiers films. Un autre film qui est sorti, qui est beaucoup plus fidèle que les autres, s'appelle tout simplement L'histoire de Jésus. Ce film est sorti dans les années 1970. La version originale dure 7 heures. Ce n'est que les textes de l'Évangile de Luc. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plus fidèle que tous les autres films, parce que c'est que des textes bibliques. Et il y a une version raccourcie qui dure 1 heure et demie, et une autre version qui est sortie il y a 5-6 ans, avec l'histoire de Jésus vue par les enfants. Et c'est un film qui est aussi fort intéressant. Tout ça pour dire que même si on rejette Jésus, il y a des cinéastes qui sont attirés vers cet homme, vers ce personnage. Numéro 2, vocabulaire. Si vous lisez votre Nouveau Testament, vous allez voir dans les évangiles d'emblée qu'il y a des mots qui ne sont pas des mots français. C'est des mots en langue étrangère, notamment en langue araméenne. Il y a le mot « rabouni », « raka », « maranata », « anathème », « talitakumi » et d'autres. Et au moment de la passion du Christ, il y a deux mots en langue étrangère que nous trouvons dans les textes bibliques. Deux mots qui sont des noms d'endroits. Le premier mot en langue étrangère, c'est le mot « Gethsémané », c'est pas du français, ou « Gethsémani », ça s'écrit parfois avec un « i » à la fin. Et ce mot « Gethsémané », c'est bien sûr, déjà, c'est le nom d'un jardin situé en bas, au pied du mont des Oliviers. Et ce nom signifie « pressoir d'huile » ou « pressoir à huile ». Et « huile d'olive » à cause de la quantité d'oliviers dans ce jardin. Le deuxième mot que nous connaissons tous, c'est le mot « Golgotha ». D'ailleurs, le titre de mon message, « De Gethsémané à Golgotha ». Et ce mot « Golgotha », c'est un mot araméen, ce qui revient au mot « calvaire » en latin. Et ce mot signifie soit le lieu des crânes, soit le lieu du crâne. Il y a deux raisons évoquées pour ces significations. La première, c'est que c'était l'endroit habituel pour les Romains de crucifier des criminels. Et de ce fait, on y trouvait beaucoup de crânes de suppliciés, beaucoup d'ossements qui traînaient par là, à côté de la fosse commune. Donc, c'était un endroit qui n'était pas très joli, mais à cause des crânes, à cause des ossements, on l'a appelé le lieu des crânes. Mais on peut l'appeler le lieu du crâne. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que ceux qui connaissent ce lieu aujourd'hui, ou ceux qui ont vu des reportages à la télévision, en regardant cette petite colline, on voit deux trous qui pourraient être des orbites des yeux. On voit un autre trou. Et puis, au milieu, en dessous, et plus bas, en biais, on dirait une bouche. Donc, on dirait une tête, un crâne. D'où le mot « le lieu du crâne ». Mais, en même temps, par rapport au vocabulaire, au moment de la passion du Christ, il y a des expressions qui sont nées et qui sont dites presque tous les jours en langue française. Pleurer comme une, ça vient d'où? Ça vient du Nouveau Testament, du week-end pascal. S'en laver les, on va y revenir, s'en laver les mains. Être un traître comme Judas, ou trahir comme Judas, ou parfois on donne un surnom à un traître. « Ah, c'est un Judas, lui. » Troisième, faire son chemin de croix. Quatrième, numéro 5, chacun doit porter sa croix. Numéro 6, c'est surtout dans le milieu évangélique, je dirais, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. On a écrit un livre, on le soumet à l'éditeur veut qu'on change la moitié du livre, et on dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bon, l'éditeur risque de rejeter les livres, mais peu importe. Et puis, une autre expression, une septième qui m'est venue à l'esprit, c'est quand quelqu'un souffre, parfois on dit, cette personne-là vit un véritable calvaire. Alors, parmi toutes les expressions, celle-là me gêne. Quand un chrétien sait jusqu'à quel point Jésus a souffert un véritable calvaire, qui sommes-nous pour nous approprier cette phrase en disant « Je suis en train de vivre un véritable calvaire ?» Puisque Jésus a vécu un véritable calvaire, personne d'autre ne va vivre un véritable calvaire. Et quand un chrétien emploie ce terme pour parler de ses souffrances, je compatis, mais je ne peux pas accepter que cette personne-là est en train de vivre un véritable calvaire. Vocabulaire. Numéro 3. le déroulement. Qu'est-ce qui s'est passé entre Gethsémané et Golgotha? Il faudrait prendre les quatre évangiles ensemble et les mettre ensemble pour trouver le déroulement. Alors, c'est ce que j'ai fait pour vous. D'abord, il y a Jésus qui va au jardin de Gethsémané avec ses disciples. Il laisse 8 de côté. Il va plus loin avec 3, Pierre, Jacques et Jean. Le trio un peu intime, un peu privilégié. Et c'est pendant qu'il est là avec ses 3 amis, Judas arrive avec des soldats armés jusqu'aux dents. Et Jésus pose cette question, mais vous cherchez qui? Et ils répondent, ben Jésus de Nazareth. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jésus dit c'est moi, vous savez ce qui s'est passé? Tout le soldat recule et tombe par terre. Surnaturel. Jésus repose des questions. Il redonne la réponse. Et c'est à ce moment-là qu'il est emmené pour être jugé. Il est emmené devant le grand conseil des Juifs. Ce grand conseil des Juifs était présidé par le souverain sacrificateur, un certain Caïphe. Et il avait un co-président, son prédécesseur, qui était aussi souverain sacrificateur, un certain Anne, H-A-2-N-E. Et Anne, d'ailleurs, était le beau-père de Caïphe. Ce groupe s'appelait aussi le Sanhédrin, composé de 71 personnes, hommes, qui représentaient le conseil un peu politico-religieux de l'époque. Et ils étaient là pour juger Jésus. Pendant ce temps-là, dehors, quelqu'un était en train de se réchauffer les mains devant un feu. Pierre. Et qui allait dire des gros mots et qui allait mentir 3 fois pour dire « Jésus, je ne connais pas ». Après un temps de pause, il y a un deuxième interrogatoire. Et pendant ce deuxième interrogatoire, on lui dit, mais es-tu le Christ? Et Jésus répond, oui, vous l'avez dit, je le suis. Troisième chapitre, comparution devant Ponce Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur, le préfet, le procurateur plutôt, nommé par l'empereur lui-même. Et pendant ce temps de discussion, une des choses qu'on relève, c'est que Pilate pose cette question formidable. Qu'est-ce que la vérité? Devant lui, il y avait celui qui avait dit, je suis la vérité. Et Pilate, comme des millions de personnes depuis, pose cette question, mais c'est quoi la vérité? Pendant qu'il était là, Pilate se rend compte, mais cet homme est innocent. Je ne peux pas le condamner. Mais, coup de bol, il y a le roi en visite dans ma ville. Hérode est là. Je vais laisser Hérode prendre la décision. Il envoie Jésus voir le roi Hérode. Tout ça pendant la nuit, hein. Ils ont beaucoup passé une nuit blanche cette nuit-là. Jésus rencontre le roi Hérode. Et ça faisait des années que le roi Hérode voulait rencontrer Jésus pour que Jésus lui fasse des miracles. Ce roi Hérode, c'est le même roi qui était responsable du martyr, de la mort de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, peut-être 2 ans auparavant. Hérode bombarde Jésus des questions. Jésus n'a rien dit. Aucune réponse. Il écoute les questions et aucune réponse. Les prêtres sont là, les scribes sont là. Jésus subit beaucoup de mépris, de moqueries. Il est maltraité, frappé, et on lui crache dessus. Et Jésus n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7 nous dit, « Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. » Après cette visite chez Hérode, Jésus revient chez Ponce Pilate. Et de nouveau, il est maltraité, il est battu. il est condamné à mort officiellement. Et pendant ce temps-là, une femme apparaît sur scène, Madame Pilate, et qui dit à son mari, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. » Elle aussi savait que Jésus était juste. « Cette nuit, j'ai été fortement tourmenté par des rêves à cause de lui. » Et vous savez ce qu'il a fait suite à ça? Devant la foule, Pilate a pris un bol, de l'eau. Il s'est lavé les mains. Il a fait quelque chose d'impossible. Se laver les mains devant Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis il a déclaré, « Je suis innocent de cet homme. » Mais il savait que cet homme aussi était innocent. Mais Pilate n'était pas tout à fait innocent. Ce soir-là, il a pris une décision, Pilate. Libérer un criminel. C'était la tradition au week-end pascal. On va libérer un criminel. Et il a libéré un criminel notoire du nom de Barabbas. Jésus ensuite, malgré sa faiblesse, il porte sa croix. Et les évangiles Matthieu, Marc et Luc nous disent tous les trois qu'à un moment donné, les soldats demandent à un Africain, un Libyen, Simon de Cyrène, pour qu'il porte la croix à la place de Jésus ou avec Jésus. Jésus est ensuite crucifié. Jésus a parlé, peu, mais il a dit des choses sur la croix. Sur la croix, il y a 7 paroles, 7 phrases qui sont sorties de la bouche de Jésus. Il s'est adressé à son Père 3 fois, il s'est adressé au soldat 1 fois, à un brigand 1 fois, à tout le monde 1 fois, et à Marie et Jean 1 fois. À son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne, le premier martyr, a repris ce texte plus ou moins lorsque lui, il est mort pour sa foi dans Actes chapitre 7. Ensuite, Jésus parle au brigand qui s'est converti à la 11e heure. En vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui, pas dans 2 ans, pas après purgatoire, pas après ceci ou cela, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À Marie, sa mère, il dit, femme, voilà ton fils. À Jean, le seul disciple présent ce jour-là, il dit, voilà ta mère. Autrement dit, Jean, occupe-toi de ma mère. Elle est âgée, elle est seule. Occupe-toi d'elle. Ensuite, à son père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au soldat, j'ai soif. À tout le monde, tout est accompli. Et à la fin, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je me demande combien de chrétiens ont prié ainsi quand ils étaient lucides juste avant de partir. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a eu des éléments surnaturels. Déjà, j'ai fait allusion à ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani avec des soldats. Mais il y en a eu d'autres. Il a fait nuit, en plein jour. Il a fait nuit. Il y a un tremblement de terre. Ce n'est pas surnaturel, un tremblement de terre. Mais que ça se passe à ce moment-là, ce n'était pas le hasard. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Comme quoi Dieu disait, la route est ouverte. Il y a eu la résurrection de plusieurs personnes ce jour-là. Matthieu 27 nous parle de ça. Plusieurs personnes sont sorties de leur tombeau et sont allées en ville. Ça, c'est du surnaturel. Alors, on peut se poser des questions, mais pourquoi tout ça? Eh bien, voilà quelques versets bibliques. Pourquoi Jésus est-il mort? 1 Pierre chapitre 3, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire ou de nous conduire à Dieu. Autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps. Colossiens 1. Un verset qui a été lu tout à l'heure par quelqu'un pendant le culte. 1 Corinthiens 15. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Marc 1, un extrait d'une des toutes premières prédications de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Hébreux 2, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Conclusion. Et moi, aujourd'hui, en quoi cela me concerne? Il y a des gens ici ce matin, sans doute, qui ressemblent à Hérode, au chef religieux, à un des brigands sur la croix, à la foule. Ils ont dit, on ne veut pas de lui. On rejette Jésus-Christ. Des gens étaient peut-être curieux ou alors carrément anti-Christ. Il y a plein de gens comme ça à Lyon aujourd'hui. Peut-être même dans cette salle ce matin. Rejeter le Christ. Par contre, il y en a d'autres qui ressemblent à Jean, à un des brigands, même au centenier qui a compris que Jésus était le Fils de Dieu. Ces gens-là, ils ont accepté Jésus-Christ. Ils se sont donnés à Jésus-Christ parce qu'ils savaient que Jésus-Christ s'était donné sur la croix pour eux. Moi, j'ai fait ça, j'ai pris cette décision il y a un demi-siècle. J'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a 50 ans. À l'époque, j'avais 10 ans. Je n'étais pas dans une église, j'étais dans mon lit. On n'a pas besoin d'être dans une église pour se convertir. Quelques années auparavant, mon grand-père, à 50 ans, s'est converti après une carrière de policier à Glasgow, en Écosse. Martin Luther King, assassiné il y a 50 ans, la semaine prochaine, le 4 avril, il s'est converti beaucoup plus jeune. Il a accepté Jésus dans sa vie. J'aimerais bien, je ne vais pas le faire, demander, mais qui a déjà accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur? Vous le savez si vous l'avez fait. Par contre, il y a une troisième catégorie. Des gens qui essayent de faire ce qui est, à mon avis, impossible. Sans laver les mains. Penser que, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de Jésus? Ou est-ce que ça m'intéresse vraiment? Ou, oh, je ne veux pas trop y penser, donc je m'en lave les mains. Quand je suis arrivé au Mans en 1981, j'ai rencontré des voisins charmants qui ont dit, mais David, tu es célibataire, viens manger chez nous. Une fois par semaine. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, tous les mercredis. Et après quelques soirées, j'ai proposé, puisque j'étais là, mais on a commencé à discuter de la Bible, et ils voulaient bien que je lise la Bible, que je parle de la Bible avec eux. C'est ce qu'on a fait tous les mercredis pendant presque 3 ans. On s'est mariés, Brigitte et moi, on a continué à aller chez eux une fois par semaine, plus ou moins, et pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on déménage. Le monsieur Michel était hyper charmant, hyper gentil. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Mais quand il écoutait l'explication de l'Évangile, ouais. Mais après des années, ouais, si tu veux. Mais il passait son temps à s'en laver les mains. Nous avons quitté l'ouest de la France. Et chaque fois que nous sommes retournés pour un culte au Mans, cet homme et sa femme, leurs enfants et les petits-enfants venaient à chaque fois, à chaque culte. Plus ou moins une fois par an depuis des années. Ils venaient au culte, une fois par an. C'était pour me faire plaisir, pour m'écouter, pour nous revoir. Et puis, ils écoutaient l'Évangile, ils écoutaient les prédications. Mais jamais, ils n'ont pris position. Ils s'en sont lavé les mains, une fois par an. Je retourne au Mans la semaine prochaine. Il y a 2 semaines, j'ai dit, je vais écrire à Michel pour dire, je reviens, venez tous dimanche. Quelques jours avant que j'envoie un email, un ami de l'église m'a appelé pour dire que Michel était décédé. Oh, il y a quelques semaines seulement. J'ai eu sa veuve au téléphone dimanche dernier. Il a passé sa vie à s'en laver les mains. Et il est où aujourd'hui? Dieu seul le sait. Il a entendu. Mais il n'a pas osé prendre position. Quoique, quand on se lave les mains devant Jésus, on prend position. On n'ose pas prendre position, mais on prend position quand on dit, ouf, non, c'est pas pour moi. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, si vous êtes en train de vous laver les mains, eh bien, Dieu vous encourage à oser prendre position. Et je dis bien oser, parce qu'il faut être courageux pour se convertir et pour vivre pour Jésus jour après jour. Sans laver les mains, c'est impossible. Soit on accepte, soit on rejette. Se décider, se positionner. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de nous conduire à Dieu. Est-ce que vous allez vous laisser conduire à Dieu par lui aujourd'hui? Et si vous êtes au Seigneur, j'espère que ce n'est pas que pendant le week-end pascal que vous dites merci, Jésus est ressuscité. C'est tous les jours qu'on doit le dire. Parce que ça nous a changé la vie. Tout à l'heure, quand j'ai prié, j'ai cité un chant de Pierre Lachat. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Notre vie a changé depuis qu'il est venu l'habiter. Venez donc et voyez, il est ressuscité. Si votre vie a changé, remerciez Dieu tous les jours pour la vie de Jésus qui vit en toi. Nous allons terminer par la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier car tu as envoyé ton Fils. Nous voulons te remercier que ton Fils ait décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il aimait les siens. Merci car il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Merci car il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, comme cela avait été annoncé. Merci car il vit aujourd'hui, il vit en nous et avec nous. Seigneur, nous voulons prier que tu nous rendes reconnaissants jour après jour pour la mort et la résurrection de Jésus. Nous voulons te prier aussi de de parler aux personnes présentes ce matin qui n'ont peut-être pas encore pris position. Seigneur, montre-leur la gravité de leur situation. Montre-leur leur culpabilité devant toi, devant ta sainteté. Et montre-leur comment ils peuvent se tourner vers toi et se convertir pour de bon. Merci pour la venue de ton Fils. Et merci pour la victoire que nous avons grâce à lui. Amen.